Oui, du soleil, effectivement, même s'il fait un peu frais, et on est très heureux d'être là pour ce 71e Festival de Cannes. Les matins vont vous faire vivre ce qui se déroule sur la Croisette, même si on a peu dormi parce qu'on a beaucoup fait la fête, notamment Christophe Honoré qui est notre invité ce matin. Bonjour, vous êtes écrivain, réalisateur, et votre film Plaire, aimer, courir vite a été projeté hier, et je pense qu'on peut le dire, Christophe Honoré, il a fait un triomphe, et d'ailleurs on va écouter un extrait de la bande-annonce du film.
Tu m'as tué un ami de Jack.
Alors tu l'as trouvé comment?
Je l'imaginais plus mignon.
Allez, viens. Je vais à Rennes voir mon breton bizarre.
Just one moment.
J'aime les gens qui doutent, les gens qui trop écoutent leur cœur se balancer. J'aime les gens.
J'ai pas encore le résultat, mais je peux vous annoncer qu'il va falloir vous hospitaliser rapidement.
Est-ce qu'il a déjà lu un de tes romans?
Non, je lis pas tellement les vivants,
c'est
pour
ça.
Bah, vous n'aurez pu attendre très longtemps, je pense.
T'es déjà venu chez nous?
Chez ton père, ouais.
Je tombe mal, je peux pas me permettre une dernière romance.
Je pars vivre à Paris.
Vous allez me manquer.
C'est qu'on pourrait se faire une belle vie tous les deux.
La bande-annonce de Plaire, aimer et courir vite, ce film de Christophe Honoré qui hier, je le disais, a fait un triomphe. Il s'agit de l'éphémère idylle d'un écrivain malade du sida et d'un jeune étudiant rennais, chronique d'un apprentissage conjoint de l'amour et du deuil, avec un subtil dosage, Christophe Honoré, entre la légèreté et la gravité.
Ben, je crois que c'est... En tout cas, moi, je sais que dans... J'aime bien ces manières-là qui sont pas trop solennelles. Je trouve que c'est toujours dangereux quand vous vous attaquez à des histoires qui ont une part mélodramatique. Et j'assume tout à fait que le film, en fait, est un mélodrame. Je trouvais important, en fait, qu'il puisse y avoir effectivement une alternance de légèreté et de gravité, mais aussi tout simplement parce que je crois qu'on fabrique mieux l'émotion en présentant des personnages heureux. C'est-à-dire que moi, je sais qu'en tant que spectateur au cinéma, ce qui m'émeut souvent le plus, en fait, c'est de voir des gens heureux et de pressentir qu'il y a quelque chose de tragique qui rôde, et donc pour moi c'était vraiment important, et c'est aussi pour ça que j'ai choisi ces comédiens là notamment Vincent Lacoste ou Denis Podalydès, c'est qu'ils ont, mais Pierre aussi d'ailleurs a beaucoup d'humour, ils ont une manière quand même de d'amener le film, en tout cas de d'envisager les répliques, les dialogues, en se disant bah s'il y a possibilité d'ouvrir la porte de la fantaisie, ouvrons-la.
Ce choix de comédien était d'ailleurs assez audacieux. Vincent Lacoste, par exemple, a priori, on n'imaginait pas vraiment comme ce garçon-là, comme ce garçon objet du désir, parce qu'on avait le souvenir d'autres films où il avait plutôt été un adolescent boutonneux, Christophe Honoré.
Oui, bah c'est la force de Vincent. Vincent, il a 24 ans maintenant, donc on l'a vu tous grandir depuis Les Beaux Gosses, et donc effectivement, il a plus souvent peut-être incarné un peu l'adolescence ingrate, mais c'est un comédien sensationnel. Enfin, c'est il a une joie de jouer. Je sais pas comment dire ça. On peut le comparer à des gens comme Jean Poiret. Je fais exprès, je vais chercher très très loin parce que c'est des gens qui tout en étant très incarnés en fait à l'écran, ont cette petite malice dans les yeux, ce sourire qui fait, qui font que on a toujours l'impression en fait qu'ils vont, je sais pas, qu'ils vont presque sortir de la fiction et qu'ils vont nous dire bon allez rideau, c'était de la blague, et en même temps ils amènent du coup beaucoup de douceur, je trouve, et puis d'élégance, parce que c'est une élégance en fait de jouer d'une manière souriante, et je crois que c'est un très grand comédien en fait, Vincent,
de l'humour, effectivement, de la douceur. Pas de pathos, alors que ces années sida, les années 1993-94 pour votre film, autrement dit, notre jeunesse, pour ceux qui ont aujourd'hui le demi-siècle, était une période terrible quand on y songe de ce point de vue-là.
Oui, mais je crois que c'est une période en fait dont on est tous, enfin tous, en tout cas ceux qui avaient 20 ans, effectivement, bon, dans les années 90, inconsolés. Je me souviens, on était dans la rue pour les manifs de Vaquem, on disait qu'on était la beauf génération. Après, quand on a commencé à travailler, on nous a traités de bobos, etc. On a un petit peu fait comme si on avait été une génération absolument épargnée, en oubliant ce traumatisme insensé qu'a été la maladie du sida. Alors, évidemment, quand vous étiez, rien que cette expression était horrible, dans un groupe à risque, en tant qu'homosexuel par exemple, l'inquiétude était encore plus grande, mais moi je me souviens que c'était partagé par l'ensemble en fait de la génération de la jeunesse, cette idée qu'à un moment on démarrait nos histoires d'amour, notre sensualité, notre érotisme, avec cette idée que l'autre pouvait être une menace pour nous, mais une menace physique. Et je crois que ça... Je crois que les gens qui sont nés dans les années 70 ont tous vécu avec le sida, même quand ils n'ont pas été victimes du sida. Ils l'ont été par l'imaginaire, par l'injonction. Et heureusement d'ailleurs qu'il y a eu cette injonction des grandes campagnes de santé publique qui nous ont aussi sauvés, dans un sens, de la capote, de tout ça. Mais je crois qu'on mesure mal, en fait... l'importance et l'impact du traumatisme.
Le fait que la fiction, l'autofiction, probablement ce qui vous concerne, Christophe Honoré, se saisisse aujourd'hui du sida, et qu'est-ce que ça vous inspire ?
C'est étrange, c'est comme si on s'était donné une sorte de délai avant d'en parler, parce que certainement il fallait laisser aussi le temps au récit des malades de s'installer, et pour oser prendre la parole en tant que témoin, et puis il y a un silence, et ces années 90 quand même, on a voulu les chasser un peu de notre mémoire, on les a effacées. On évoque plus facilement les années 80, et puis après on a l'impression comme ça qu'il y a eu une espèce de saut, comme si
c'est vrai,
ça n'avait pas vraiment existé ces années 90. Mais vous voyez, les années 90, moi je me souviens très très bien, on était déjà dans la rue contre la première guerre en Irak, c'était pas rien, enfin on pressentait quand même que se jouait là quelque chose qui allait nous revenir ensuite comme un boomerang.
Comment vous l'avez écrit, ce film, sachant qu'il y a une grande part de vous-même, même ceux qui ne vous connaissent pas très bien, savent que cet étudiant rennais, et le fait d'avoir cet amour des lettres, bref, tout ceci, c'est aussi une partie de votre vie, Christophe Honoré.
Oui, mais c'est toujours... là, ça paraît un peu plus clair, soudain, parce qu'il y a Rennes, etc., mais... Je crois que pour beaucoup de cinéastes, en fait, on essaye justement au moment du scénario d'être au plus proche d'émotions qu'on a ressenties, d'une espèce de sincérité, d'une discipline, d'authenticité. C'est pas tant pour faire des films personnels, parce que je crois qu'on peut faire des films personnels en faisant des polars ou en faisant c'est la force justement de la mise en scène, en fait, en général, de réussir à la mise en scène, c'est l'art justement d'un homme ou d'une femme de s'accaparer une histoire à sa façon.
Qu'est-ce qu'on décide d'y mettre et qu'est-ce qu'on refuse d'y mettre lorsqu'on fait quelque chose de si personnel, Christophe Honoré ? C'est moi d'ailleurs qui dis si personnel.
Si, mais vous avez raison. Après, j'ai pas voulu me cacher, peut-être parce que c'est mon 10e film et que peut-être que c'était aussi sur cette jeunesse-là. Et je me méfiais en fait de faire un film nostalgique. Donc je me suis dit qu'il fallait faire un film au présent et qu'il fallait pas fabriquer des choses. Et donc j'ai essayé d'être... J'ai essayé de laisser ma mémoire conduire ce récit et puis de la provoquer d'une manière accidentelle par des musiques, par des lieux que je retrouvais à Rennes, à Paris et de construire le film d'une manière comme ça un peu sensible en fait. Enfin, je sais pas comment dire, pas avec une dramaturgie prédécidée à l'avance, mais de laisser la vie s'installer dans le film.
Vous jouez avec la question politique. À un moment d'ailleurs, l'un de vos personnages dit de ce jeune homo qui monte de Rennes, plutôt qui descend d'ailleurs de Rennes à Paris, dit de lui, qu'est-ce qu'il va faire à une réunion d'ACT UP ?
Oui, ben alors après c'était intéressant aussi parce que ben là par exemple dans le film de Robin Campillo il a 120 battements en fait il a vraiment essayé de rendre compte, ben je pense aussi d'une manière très personnelle des années qu'il avait vécu lui en tant que militant ACT UP. Et chez ACT UP, il y avait l'idée comme ça que la maladie était un scandale en fait, et donc il fallait être véhément par rapport à ce scandale. Mais il y avait plein d'autres manières très différentes aussi de vivre cette maladie. Il y avait des gens, et d'ailleurs ça énervait beaucoup les militants d'ACT UP qui le voyaient. Enfin, c'est pas tant qu'il y avait une sorte de fatalisme en fait, mais en tout cas qu'il le vivait autrement. Et donc je trouvais ça intéressant en fait que d'avoir des personnages qui évoque ça, même si le personnage de Podalydès justement le rembarre assez vite, Pierre de La Donchamp, quand il dit ça, en disant bah, tu ferais bien d'aller à ACT UP, ça te sortirait un peu de toi. Et mais bon, voilà, c'était, faut pas croire non plus, faut pas réécrire une espèce d'histoire en pensant que tous les homosexuels ou tous les malades du sida étaient militants de la lutte contre le sida. C'est-à-dire ils pouvaient être tous militants, évidemment. Ils étaient tous en lutte contre le sida, mais ils n'étaient pas tous en lutte de la même façon.
Il y a en tout cas une question politique qui est clairement posée dans le film, c'est l'homoparentalité. L'un des personnages a un enfant, Christophe Honoré.
C'est rigolo, pourquoi vous dites que c'est une question politique ?
Écoutez, je crois que ça a eu des résonances politiques. Et si mes souvenirs sont bons, vous, Christophe Honoré, vous êtes impliqué dans ce combat.
Oui, oui. Après, pourquoi c'est... J'ai toujours du mal, moi, avec ça, avec cette idée que qu'en tant que cinéaste, on fait des trucs...
Je crois que ça a fait polémique en France, je me trompe.
Non, vous avez raison. Vous avez raison. En tout cas, en tant que cinéaste ou en tant qu'écrivain, nous, on peut juste travailler sur l'imaginaire des gens. Et donc, de proposer des personnages, un personnage, comme là, le personnage de Jacques, et qu'il a un enfant, et en même temps qu'il a des amants et qu'il
et que ça se passe bien aussi dans une vie normale avec des hauts, des bas, parce qu'une vie c'est
que
ce
soit pas
ça.
Le sujet, en tout cas que ce soit pas le sujet du film. Ça c'est pour moi c'était important, que la présence de cet enfant qui soit une présence, ça veut rien dire une présence naturelle, mais que ce soit pas le sujet du film, c'est-à-dire qu'il n'y ait pas des conflits mis en scène par le
ça,
scénario.
Ça c'est pas politique, ou en tout cas
si, mais
c'est pas
peut-être
important.
Il faut que j'assume, en fait. C'est que j'ai toujours l'impression qu'on se décerne des médailles en tant que cinéaste en disant vous avez vu, je suis politique, etc. Et alors que j'ai l'impression que c'est les commentaires en fait sur les œuvres qui peuvent être politiques, mais que l'engagement des cinéastes, en tout cas dans leur imaginaire, dans ce qu'ils proposent comme histoire, je me méfie toujours un peu de ce mot.
Et puis il y a une foule de noms dont le souvenir nous bouleverse parce qu'on les a connus ne serait-ce que comme spectateurs. Il y a notamment une évocation des Nuits Fauves. Alors les plus jeunes n'ont peut-être pas vu ce film. Je ne sais pas d'ailleurs ce que ça fait de le voir aujourd'hui. J'aimerais juste que l'on réentende la voix de Cyril Collard et puis vous nous direz ce que vous avez aujourd'hui comme relation avec les Nuits Fauves, avec cette production-là.
Et je voudrais dire une chose qui est importante quand même, parce qu'on parle beaucoup de séropositivité, de sida et tout ça. C'est avant tout quand même une histoire d'amour-passion, ça c'est la première chose. Et deuxièmement, c'est aussi l'évolution d'un type qui part quand même fermé comme ça un peu dans un fonctionnement égocentrique, et qui à cause de cette passion et à cause de la menace, quoi, bon, arrive à s'ouvrir.
La voix de Cyril Collard. Vous avez revu Les Nuits Fauves, Christophe Honoré?
Oui, bien sûr, j'ai revu Les Nuits Fauves.
Et alors, qu'est-ce que ça donne quand on revoit?
Ça donne, on parlait un petit peu du fait d'être inconsolé. L'irruption de Cyril Collard dans le cinéma français avec ce premier film a été dingue. Et évidemment, aujourd'hui, ça ressemble à un premier film. C'est-à-dire que ça a à la fois la force et le charme d'un premier film. Et puis, en même temps, on se dit, qu'est-ce que ça va donner ensuite? Et ensuite, il n'y a rien. Et c'est ça qui est d'une cruauté, c'est que
parce que Cyril Collard, je le dis à ceux qui sont trop jeunes, est mort quelques mois après.
Après la sortie de son film. Et c'est cette cruauté là qui est importante, en tout cas que moi je voulais viser, c'est-à-dire comment tout ça nous a rendu inachevés. C'est-à-dire qu'aujourd'hui on ne voit pas ce qu'auraient pu donner les films de Cyril Collard, on ne voit pas Hervé Guibert écrire un livre au moment où Houellebecq écrit, on ne voit pas les derniers films de Jacques Demy, on ne voit pas ce que Serge Danet aurait écrit autour du cinéma et de l'arrivée des nouveaux écrans. C'est-à-dire le manque aujourd'hui d'un nombre d'artistes, d'intellectuels. Mort du sida, il est, en tout cas pour moi, c'est un gouffre réel. Et en tout cas, il me porte aussi dans une solitude. C'est-à-dire que ces gens qui m'ont, quand j'avais 20 ans, que je connaissais personne, qui m'ont initié à la littérature, au cinéma, à la pensée, par rapport à Danet, en fait,
Serge Danet, qui était critique de cinéma, notamment sur France Culture, qui est mort du sida, lui aussi, en 1995.
Un petit peu avant, dans 92, il me semble. C'est la saignée du sida dans le milieu artistique et un événement en fait d'une importance folle et aujourd'hui on l'oublie un petit peu, le manque des gens. Vous voyez, pour moi qui suis homosexuel, cinéaste, etc. Le fait que de ne jamais avoir pu envisager une transmission avec des aînés, en tout cas ceux qui avaient une dizaine d'années de plus que moi, c'est assez terrible. Et je crois que ça influence aussi énormément ce qu'on fait aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on est flottant, du coup, comme si on pouvait pas s'inscrire, en tout cas, dans une chaîne parce que les maillons qui nous précédaient étaient absents.
Mais alors, justement, il y a un côté mémorial dans votre film parce qu'il y a beaucoup de noms égrenés, de noms d'hommes qui sont morts du sida, de la même façon que tout à l'heure, il y aura ce cinéaste chinois qui viendra dans ce studio, Wang Bing, qui décrit les morts suite au crime de Mao durant le grand bond en avant et la révolution culturelle. C'est une forme de mémorial aussi de rappeler les noms d'Hervé Guibert, Bernard-Marie Coltès.
Oui, c'est... En tout cas, pour moi, j'aime pas tellement cette expression, mais c'est comme payer sa dette, quand même. C'est d'admettre à un moment que ces fantômes-là, ces spectres-là, sont très vivaces. En tout cas, moi, je les porte avec moi. Alors, évidemment, c'est toujours un peu compliqué parce que quand on parle du sida, il faut surtout pas, mettre de deux côtés les morts illustres et les morts anonymes. Donc, mais en tout cas, il y a quand même une, je sais pas, il y a un manque aujourd'hui très très fort de ces artistes-là.
Et puis il y a aussi ces années 90 avec des expressions très crues dans votre film. Il est question de putes, il est question de gens qui couchent à droite à gauche pour réussir. C'est des choses que l'on dirait aujourd'hui où les temps ont changé selon vous, Christophe Honoré.
Oui, les temps ont changé. Déjà, on en avait conscience quand même. Moi, je me souviens, on avait conscience qu'on arrivait à la fin d'une époque et que c'était pas le début de quelque chose. C'était notre jeunesse, donc nous, on croyait que c'était un début dans la vie, mais on arrivait après les années 80, après l'hédonisme des années 70. On arrivait avec cette idée quand même que nos parents nous regardaient en nous disant qu'on allait faire moins bien qu'eux. Il y avait le sida, il y avait cette guerre en Irak. Et je crois qu'il y avait un langage amoureux qui était évidemment pas le même que celui d'aujourd'hui. Et c'est toujours intéressant dans un film d'essayer d'en rendre compte.
Plaire, aimer, courir vite, c'est votre film, Christophe Honoré, un film bouleversant qui était en compétition officielle hier soir à Cannes, puisque nous sommes en direct de Cannes. Dans quelques instants, restez avec nous, nous serons en compagnie de l'actrice et de la productrice Julie Gayet pour évoquer aussi ce festival de Cannes post-Weinstein, parce qu'il y a cela aussi, pour évoquer également le travail du producteur, et nous aurons également la chance d'entendre Wang Bing, ce réalisateur chinois qui a tourné ce que l'on peut appeler le Shoah chinois. Merci Christophe Honoré d'avoir été avec nous